ce programme.
Ici, on a la chapelle,
chapelle de la Vierge.
On va juste demander.
Chapelle de la Vierge, Notre-Dame de la Roche.
D'accord.
Qui est l'élément de la Roche-sur-Yon le plus ancien. Puisqu'il est 4e siècle, la Roche-sur-Yon, c'est tout récent, tout le reste est récent.
D'accord.
Tout a été détruit, tout ce qui est vu, sauf la Vierge.
Sauf la Vierge.
Donc
qui
elle nous précède.
Depuis,
elle nous précède.
Nous précède. Si vous voulez bien, on va demander à Marie de prier pour nous et pour qu'elle éclaire nos esprits, le mien et le vôtre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur
est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre-Dame de la Roche,
priez
pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais mettre mes feuilles dessus.
Ouais.
Donc je vais mettre ça comme ça.
Voilà. Le micro est là.
D'accord. Voilà, très bien. Bonjour, donc je suis Marie-Gabrielle Ménager, mariée à Emmanuel, qui n'est pas là pour l'instant, mais qui nous rejoindra pour les prochaines interventions. Il est actuellement en retraite, et donc prie pour nous. Il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il priait bien pour nous aujourd'hui. Donc vous êtes dans ses prières, vous avez beaucoup de chance. Le Père nous a demandé de venir faire ces interventions pendant le carême. J'espère qu'il ne regrettera pas. L'idée, c'est de vous faire cheminer un peu sur le projet de Dieu pour l'homme. En deux mots, il se trouve que nous travaillons beaucoup pour développer des outils pastoraux, c'est-à-dire qu'ils soient accessibles à monsieur, à madame, tout le monde, et jusqu'à quelqu'un qui n'est pas forcément... élevé dans une culture chrétienne, parce qu'en fait il y en a de plus en plus, et donc d'expliquer qu'en fait notre vie n'a de sens que dans le regard de Dieu, parce que Dieu nous a créés pour lui. Hein? Pour faire court, Dieu veut nous épouser, voilà. Dieu veut nous épouser dans l'éternité, et voilà. Donc tellement il nous aime, il veut partager tout nous donner, se donner à nous, et c'est le désir le plus profond de Dieu, c'est de s'unir à nous. Et que nous puissions nous donner à lui, qu'on accueille tout ce qu'il nous donne. Et donc, évidemment, quand on est coupé de Dieu, bien, c'est compliqué à comprendre. En revanche, on peut y aller par d'autres chemins. Et donc, il y a une personne qui s'appelle Saint Jean-Paul II, qui a écrit pas mal de choses sur la personne humaine, le sens de la personne humaine, qu'est-ce que l'homme. Et notamment, des textes à travers des catéchèses qui ont un nom un peu compliqué, qui s'appelle la théologie du corps. Alors, quand on entend ça, on s'est dit, oh là là, c'est hyper intellectuel, etc. Je reconnais que les textes de Jean-Paul II sont compliqués, sont pas accessibles à tout le monde, et il faut pas être fatigué, d'accord ? Faut pas somnoler. Vous avez des romans, vous restez dedans. C'est ardu. Voilà, c'est ardu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui ont traduit doucement ça et qui l'ont rendu audible. C'est un cadeau qui est fait dans l'Église, qui est fait à l'Église, qui est vraiment toute une explication du projet de Dieu pour l'homme. Le beau projet de Dieu pour l'homme. Quel était le projet de Dieu quand il a créé des hommes masculins et des femmes féminins? En fait, la sexualité dit quelque chose de la personne. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que Dieu avait dans la tête quand il a créé l'homme, homme, et la femme, femme? Est-ce que c'est juste, je me suis trompée, ils sont pas pareils? Ou est-ce qu'il avait une intention derrière la tête? Et donc Jean-Paul II creuse la Bible, hein, il ne va pas chercher ailleurs que dans la Bible la réponse à ça. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Et ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que finalement, plus on creuse ça, en tout cas personnellement, moi plus j'ai creusé ça, plus j'ai découvert ce que signifiait ma vie avec mon corps de femme. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, Marie-Gabrielle, d'être une femme? Et plus un homme peut creuser ça, plus il va comprendre qu'est-ce que ça dit aujourd'hui d'être un homme. Je fais une petite parenthèse. Vous comprenez ô combien aujourd'hui c'est important de le comprendre, de le saisir, de le mâcher, de le digérer pour le ressortir. Mais le ressortir de façon extrêmement simple, extrêmement accessible. Voilà. Parce qu'en fait, si Dieu nous a créés avec ce désir de nous aimer, il a mis en nous un désir d'aimer aussi. D'accord ? C'est-à-dire qu'en chacun, toute personne humaine, il y a un désir d'aimer très fort. Je dis bien toute personne humaine. Je vous laisse une seconde pour chercher quelqu'un dans votre tête qui est épouvantable, détestable, même quelqu'un dans l'histoire. Éventuellement, il avait le même désir d'aimer en vérité que vous, que votre curé. Si, 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 si. Le même désir d'aimer en vérité.
Initialement.
À l'origine. Dans le projet de Dieu, il y a des parasites, des histoires, des blessures qui font qu'on n'arrive pas à le sortir. D'accord ? Certains sont plus parasités que d'autres. Mais c'est une source d'espérance extraordinaire de se dire que toute personne est capable d'aimer en vérité. Ça veut dire comment ? Ça veut dire quoi, aimer en vérité ? Ça veut dire aimer comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Rappelez-vous comment, jusqu'où il a été pour nous aimer. Eh bien, en réalité, Jean-Paul II va creuser ça et va nous permettre de cheminer là-dessus. Ce qui était plus sportif dans ce que m'a demandé votre curé, c'est de faire le lien entre cet enseignement de Jean-Paul II donné il y a 30 ans, qui parle pour aujourd'hui, qui répond aux problématiques de la société d'aujourd'hui, et en même temps, on ne peut pas s'écarter quand même de la liturgie qui nous est donnée aujourd'hui, premier dimanche de carême. D'accord ? Donc, on a coupé ces enseignements de Jean-Paul II en cinq, et on va cinq fois vous faire avancer dans ces catéchèses. On va essayer de vous prendre avec nous et de vous faire avancer là-dedans, tout en restant assez proche de la liturgie. Sportif. Donc, on va faire ça en deux parties. On va commencer par partir de Jean-Paul II, et ensuite, on va arriver sur la liturgie. Ça vous va ? Et si vous ne comprenez pas, de temps en temps, n'hésitez pas à... Alors, pas poser des questions sur le fond, mais est-ce que vous pouvez préciser votre phrase ? Puis après, je répondrai si vous voulez à des questions. D'accord ? Du coup, je suis sortie complètement de mon texte, ça commence mal. C'est donc le plus vaste enseignement pontifical donné par un pape de toute l'histoire de l'Église, qui permet de comprendre son corps, de comprendre la sexualité, de comprendre le sens de la sexualité masculine et féminine, de comprendre le mariage, de comprendre le célibat consacré, et tout ça dans le projet de Dieu, à la lumière du plan de Dieu dès l'origine. Comprendre le langage qui est inscrit dans mon corps, comprendre la blessure qui est dans notre cœur, et comprendre dans l'annonce, dans ce projet des origines, l'annonce de la résurrection et de la vie éternelle. Dès l'origine, on pouvait comprendre le projet de Dieu pour la vie éternelle. Par l'incarnation, le corps est entré par la porte, par la grande porte, non seulement de la théologie, mais aussi et surtout de la réalité. La théologie du corps, ou on pourrait dire la théologie du sexe masculin et féminin. Le but de la théologie du corps est de donner une pédagogie du corps. Vous vous rendez compte, on sort d'une vague jansénisme où le corps n'est pas bon, le corps n'est pas beau, il faut le cacher. Et là, tout d'un coup, Jean-Paul II arrive en nous disant « mais pas du tout, pas du tout, pas du tout ». Tout est beau dans ton corps, chaque partie de ton corps a été désirée, préparée, voulue ainsi par Dieu. Mais il y a un peu le... Voilà. Ce qui fait dire... Est-ce que ça vous dit quelque chose, Hugh Hefner, ça vous dit quelque chose ? Non ?
Qu'est-ce qu'il veut dire ?
Il n'y a que des hommes qui répondent à cette question. J'attendais. Fondateur de Playboy. Bah, y en a qui connaissent les fondateurs de Barbie, ou je ne sais pas. Chacun ses expertises. Alors... Ce qui est intéressant, c'est que Hugh Hefner et Jean-Paul II sont à peu près de la même génération. On était à une époque où on a dit, cette vague, cette ambiance janséniste, où le corps n'est pas beau, le corps est sale. On va même jusqu'à dire aux jeunes mariés, quand vous vous unissez, retournez la croix, parce que tout ça, c'est pas beau, il faut le cacher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on est dans notre histoire marquée par ça, blessée par ça, d'accord ? Et Hugh Hefner arrive en disant « Vous êtes bien gentil, mais moi je trouve que la sexualité, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt agréable. » Est-ce qu'il a raison ou il a tort ?
Il a raison.
Et donc il dit la sexualité est une bonne chose, donc je vais faire un commerce, je vais faire du business sur la sexualité. Est-ce que là il a raison ? Parce qu'il va utiliser l'autre pour son plaisir. D'accord ? Au même moment, à un autre endroit, il y a un homme qui dit « La sexualité, c'est super. » Est-ce qu'il a raison ? C'est Carol Wojtyla, mais il dit « La sexualité est faite pour l'autre, en vue du don. » Voilà. Donc, vous voyez, deux discours complètement différents à la même époque. C'est magnifique, je trouve. Les deux avaient raison au départ. Ce cri à l'intérieur de dire « Oui, mais enfin, le corps, c'est beau, la sexualité, c'est beau, oui. » Mais attention à la façon dont on va vivre ça et organiser ça. Alors, d'où part Jean-Paul II ? Jean-Paul II part d'une question qui est posée à Jésus. Alors, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais la théologie du corps, c'est quand même pas une nouvelle Bible. Alors, non, c'est pas une nouvelle Bible, on s'appuie totalement sur la Bible. La même que hier et aujourd'hui et demain. Jean-Paul II part d'une question très actuelle qui est posée à Jésus. Cette question pourrait être posée la même à Jésus, il aurait la même réponse. On lui parle, on lui demande, vous savez, c'est dans Saint Matthieu où les apôtres, les pharisiens demandent à Jésus, mais pourquoi autrefois on pouvait divorcer et maintenant on ne peut plus divorcer ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Hein ? Pourquoi on ne peut pas se remarier ? Ça vous dit ou pas ? Tout le monde, d'accord. Ok. Et Jésus répond, à l'origine, il n'en était pas ainsi. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et il les fit homme et femme. Vous vous rappelez de ce passage-là, de Genèse 1 et 2 ? D'accord ? Si vous ne saisissez pas, je vous le relis. Hein ? D'accord ? Mais alors pourquoi Moïse a dit oui ? C'est à cause de la dureté de votre cœur, dit Jésus. Et à deux reprises, Jésus renvoie à l'origine. Pour s'imprégner de la volonté d'amour du plan de Dieu qui est dès le début inscrite dans l'ensemble de la création, homme-femme. C'est une réponse qui va pour toutes les époques de l'histoire, hier comme aujourd'hui. Ce texte de la Genèse, qui est le patrimoine commun de l'humanité, révèle le cœur même de l'humanité dans le cœur de Dieu. Et Saint Jean-Paul II demandait à ses proches collaborateurs de lire tous les jours Genèse 1, 2 et 3. Je me suis dit, c'est pas mal quand même. Alors, je vous montre juste ce que ça donne, hein, par rapport au temps qu'on peut passer sur les réseaux ou sur les journaux. Genèse, alors vous voyez ? Voilà, Genèse 1, 2, 3, ça fait, je ne compte pas les petites notes, hein. Ça fait ça, ça, je ne vais pas vous mentir, et ça, ça va ? Après, on est sur 4. Voilà, donc on fait 3 pages comme ça. Et il disait à ses proches collaborateurs de lire tous les jours Genèse 1, 2, 3, parce que là, il y avait tout le projet de Dieu pour l'homme. Moi, j'avoue que plus je le lis, et à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, qui me fait mieux comprendre, en fait, le projet de Dieu pour l'homme en général et pour moi en particulier. Le Christ s'adresse donc là à l'homme de toutes les époques. Ce message, il est pour moi aujourd'hui et pour chacun de vous aujourd'hui, 9 mars, 10 mars. Voilà, aujourd'hui 10 mars. D'aller voir, de prendre le temps de revoir ce que Dieu voulait aux origines. C'est là que se trouve la lumière. La question n'est pas savoir ce qui est permis ou défendu. La question est de savoir qu'est-ce que Dieu voulait au départ quand il nous a créés. Alors, je sais bien qu'il ne nous a pas créés en 7 jours, on est bien d'accord. La question n'est pas là, mais c'est sur le pourquoi, pas le comment, le pourquoi. Et en fait, je pense que si on prend le temps de s'imprégner, de méditer, de contempler et d'accueillir la réalité du corps à la lumière de ce qui est écrit dans Genèse 1 et 2, eh bien, et on parlera du 3 après, mais déjà de Genèse 1 et 2, alors on voit bien la beauté, et les merveilleuses et délicates intentions de Dieu dans chaque petit détail. Il y a deux récits pour nous permettre de mieux comprendre le projet de Dieu. Et il y a le récit de Genèse 1 et puis Genèse 2. Ces deux récits qui sont... je ne vais pas rentrer dans les détails de ces récits, ça va. Qui a été écrit avant l'autre, mais peu importe, on va juste rentrer un tout petit peu dedans. Avant Dieu, avant dit Dieu, Dieu fit. Pendant toute Genèse 1, Dieu dit et ça se fait. La parole fait tout de suite l'action. D'accord ? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Ce pluriel de notre image désigne les trois personnes de la Trinité, nous dit Jean-Paul II. La création de l'homme et femme engage la Trinité elle-même. Hommes et femmes, ils sont créés à l'image de la Trinité. Et c'était le tweet du pape François quand il est arrivé à Dublin pour les rencontres mondiales de la famille. Famille, icône de la Trinité. Aucune ressemblance entre l'homme et l'animal. La seule ressemblance qui est énoncée dans toute la création, c'est celle de l'homme avec Dieu. Et donc, si on veut comprendre l'homme, c'est pas du côté du lapin qu'il faut se regarder, ou du gorille, ou du singe, ou de je ne sais quoi, mais c'est du côté de Dieu qu'il faut se tourner pour comprendre ce qu'est l'homme et ce pourquoi l'homme est fait. Contrairement à tous nos manuels d'SVT qui sont extraordinaires, où on vous parle du poisson, du lapin, du singe et de l'homme. Et en fait, c'est vraiment, ça ne peut pas être mis sur le, pour nous, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'en fait, il y a une dimension de l'homme qui n'est pas décrite. Alors si encore on la décrivait, ça pourrait aller, mais on ne la décrit pas. Il y a une dimension de l'homme qui n'est pas décrite quand on les met sur le même niveau. La différence sexuelle n'est mentionnée que pour l'homme et la femme, à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle, il les créa. Voilà, cette différence sexuelle n'a de sens que quand on parle de l'homme. Donc, il y a une volonté de Dieu, dès le départ, une intention dans sa création. Il y a quelque chose qui fait qu'il a voulu que cet homme et cette femme soient sexués masculins, sexués féminins, pour une raison bien particulière. La dualité masculin-féminin est intrinsèquement liée à l'image de Dieu. Autrement dit, quand je touche, détourne cette identité sexuelle masculin-féminin, je touche à quoi ? J'abîme, je détruis, l'image de Dieu. Quand je restaure, quand je rassemble, quand j'unifie, quand je reconstruis cette identité masculin-féminin, je restaure, d'accord ? Et je crois que notre mission est de restaurer, de pouvoir transmettre. Dieu les bénit, il bénit cette dualité sexuelle, elle est bénie, voulue par Dieu et bénie par Dieu. Dans le deuxième récit, il y a cette phrase « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu modèle l'humain avec la glaise du sol. L'humain, à ce moment, n'est pas encore achevé. C'est très important, ça. Il n'est pas encore achevé. Il ne sera achevé que dans la dualité homme-femme. Je suis dans le deuxième récit. Hein. Vous le relirez avec ce que je vous ai dit là. Et là, l'homme est appelé à... Vous vous rappelez à faire quoi à ce moment-là ? Nommer les animaux. Cochon d'Inde, papillon, abeille. Il va nommer tous les animaux, toute la création. Alors, historiquement, quand on nomme, c'est que quelque part, on a une responsabilité. On est appelé à prendre soin. D'accord ? On en est garant. Et Jean-Paul II va même jusqu'à dire l'homme est le jardinier de la création. Dieu nous confie cette création et on doit en prendre soin. Et l'homme des origines va prendre doucement conscience de son identité. En fait, c'est un peu une expérience que Dieu fait faire à l'homme. Et il va doucement prendre conscience de son identité et du fait qu'il n'est pas achevé dans le fait de nommer les animaux. Parce qu'à un moment, il va dire « Mais je ne vois personne comme moi. » Et donc, doucement, il le prépare à un manque, à une espèce de désir qui va monter en lui, qui va faire qu'il va enfin être achevé. Cette, cette capacité de connaissance le distingue, etc. Voilà. Il découvre qu'il est différent, qu'il est une personne. Il est à la recherche de quelqu'un, il est à la recherche de sa complétude. Il ne le voit pas. Et pour lui, aucun des animaux de la terre ne peut répondre à ça. Au fond de lui commence à venir un appel au don de lui-même. Et ça, c'est très important. Alors, j'ai rajouté des post-it, ça veut dire que c'est important. L'homme nomme les animaux, s'il est appelé à les gouverner, à en prendre soin. Mais c'est par son corps qu'il découvre une différence avec les animaux. C'est par le fait qu'il est debout, homme debout, et l'homme se sait créé de Dieu, se sait créé par Dieu. Et donc, c'est dans sa sexualité, dans son corps, jusqu'à dans sa sexualité, qu'il va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne vois personne comme moi. Je suis une personne, j'ai un besoin puissant de me donner, un appel au don. Et je me sais créé de Dieu. Et donc, incomplet, puisque qu'est-ce que la Trinité ? La Trinité, c'est la communion des personnes. D'accord ? Vous suivez là toujours ? L'homme, Dieu aime infiniment le Fils, et le Fils aime infiniment le Père, et de cet amour infini, jaillit la vie, l'Esprit Saint. Ça, c'est la définition du catéchisme de base. Mais quand on reprend ça, on voit bien que si l'homme est seul, s'il est image de cette communion d'amour, là, il y a un problème, parce qu'il ne peut pas être communion d'amour, parce qu'il est seul. Vous suivez ? Et donc, il a ce manque en lui, ce désir, mais c'est incomplet, il est inachevé. Homme, image de Dieu, homme fait pour la communion. Et il ne peut pas se donner en communion, c'est ce que je viens de vous dire. Alors là, il se passe des choses assez extraordinaires. C'est que à ce moment-là, Jean-Paul II parle. Vous savez, vous avez déjà entendu parler le péché originel. Et Jean-Paul II parle de trois expériences originelles avant le péché originel. Trois expériences originelles. Alors au début, on dit oui, c'est pas très important, etc. Mais en fait, je m'aperçois que plus je creuse ces trois expériences originelles, plus je m'aperçois qu'elles sont essentielles à identifier et peut-être même à provoquer chez certaines personnes, pouvoir revivre ces expériences. Première expérience, c'est l'expérience de la solitude. Je viens de vous la décrire, c'est le fameux cri d'Adam, « Je ne vois personne comme moi ». C'est-à-dire, je sens que je suis appelée à me donner, je fais cette expérience-là, mais je ne peux pas le faire, mais j'ai un grand désir. Donc Dieu a fait en sorte que ce grand désir naisse dans Adam. Vous me suivez ? Je vous expliquerai pourquoi c'est important. Ensuite arrive la deuxième expérience, c'est l'unité, l'expérience de l'unité. Jean-Paul II parle de la personne humaine en disant cette phrase qui définit la personne. Et je pense que dans les années à venir, 20, 30, 50 ans, 100 ans, un jour ou l'autre, il va y avoir un concile dans l'Église qui va définir ce qu'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on finit par plus trop savoir ce que c'est l'homme, ce qu'est l'homme. Et la base de cette réflexion sera très largement inspirée par la théologie du corps et notamment par cette phrase, d'après ce qu'on m'a dit, qui est près de 200 fois dite dans les textes de Jean-Paul II, comme un espèce de refrain pour qu'on l'ait bien rentré dans la tête. L'homme, seule créature sur terre voulue pour elle-même, que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut se trouver pleinement que dans le don sincère de lui-même. En d'autres termes, l'homme ne peut se réaliser, s'épanouir, se réaliser pleinement, ne peut se trouver pleinement que dans le don sincère de lui-même. Louis Bernard ne peut se réaliser pleinement que dans le don sincère de lui-même, même Louis Bernard. C'est-à-dire que Louis Bernard, ma mission est de veiller à ce qu'il puisse trouver des lieux où il puisse se donner, parce que c'est ainsi qu'il va se réaliser. D'accord ? Et donc, quand on apprend à quelqu'un à se donner, Quand on permet à quelqu'un de se donner, on lui permet tout simplement de se réaliser. Et quand on permet à quelqu'un de donner du temps, un service, des petites choses, par ce don, cette personne se réalise. Les personnes qui sont dehors, quand je suis arrivée, il y avait du monde je pense que ce sont des gens qui viennent là souvent. Si ce sont des personnes humaines dans nos yeux, il faudrait voir comment ces personnes, pour se réaliser, puissent se donner. Vous voyez comment ça pourrait changer complètement quand quelqu'un vous ouvre la porte, quand quelqu'un... Tous ces gestes-là, accueillir ce que l'autre fait, ce que l'autre me donne, permet à l'autre de se réaliser. J'ai du mal à marcher. Je ne peux plus porter. Je suis fragile. Je n'aime pas être seule. C'est ma fragilité. Accueillir quelqu'un qui va porter ma valise, qui va me tenir compagnie, qui va machin, c'est permettre à l'autre de se réaliser. Donc accueillir ma fragilité, c'est permettre à l'autre de se donner et donc de se réaliser. Ma fragilité est une bonne chose. Oui, dans ce monde de performance, ça fait du bien d'entendre ça quand même. Hein ? Ça fait du bien. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Cette expérience de l'unité. Là, puisqu'à Dandine, je ne vois personne comme moi, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur, à ce moment-là ? Il endort. D'abord, il l'endort. Très intéressant. Voilà. Et à ce moment-là, il met Adam dans un sommeil mystérieux. Et dans la Bible, ce sommeil annonce qu'il va se passer quelque chose. C'est le sommeil est un signe annonciateur d'une alliance dont Dieu est à l'initiative. J'ai bien dit d'une alliance dont Dieu est à l'initiative et qui va proposer à l'homme, à l'humanité. Dieu est en train d'achever sa création. Et ça, c'est magnifique. Et il y a des artistes qui ont merveilleusement bien saisi l'ampleur de ça. Adam est là, dans un sommeil mystérieux. Et il crée Ève. Dieu crée Ève. De la côte d'Adam, donc je ne vous le fais pas, c'est légal et tout ça. Je vous parle d'un tableau particulier où on voit Adam qui dort et Ève qui est là debout et Dieu lui donne un dernier petit coup de peigne avant qu'elle se réveille. Quelle délicatesse. Parce que, qu'est-ce qui va se passer après ? Adam, quand il se réveille, il exulte. On est d'accord ? Le gars, il est... Il n'en peut plus. Ça y est, enfin, il comprend le sens de sa vie. Il comprend plein de choses. Mais elle, la belle Ève, est-ce qu'elle exulte ? Et en fait, moi, j'ai compris ça dans le tableau. J'ai trouvé ça merveilleux. La femme, à ce moment, avant même qu'Adam se réveille, la femme s'accueille comme une merveille, créature de Dieu. Marie-Gabrielle, je suis une créature merveilleuse faite par Dieu. Bien, vous savez, quand une femme se sait belle, particulièrement aux yeux de son époux, alors elle peut se donner. Eh bien, Ève, elle se sait belle parce qu'elle vient de s'accueillir pleinement comme une merveille dans le regard de Dieu. Alors, quand Adam arrive et dit « Ah, qu'est-ce que tu es belle !» Il exulte, alors elle l'accueille. Elle peut l'accueillir et elle peut se donner. Vous comprenez ? Et donc, l'un et l'autre ont eu besoin de s'accueillir comme un don de Dieu, mais de façon différente, parce que les deux vont se donner pour se réaliser, vont avoir besoin de se donner pour se réaliser, mais de façon différente. Il y en a une, Ève, elle a besoin de s'accueillir, de pouvoir accueillir, et c'est dans l'accueil d'elle-même et de l'autre qu'elle va pouvoir se donner. C'est bien en son sein que Marie a son enfant, à l'enfant Jésus. C'est bien dans son sein qu'on porte l'enfant, qu'on accueille la vie en nous et on se donne. Et donc c'est par l'accueil de ce que je suis, l'accueil de la vie, l'accueil de l'amour. J'accueille mon époux, j'accueille. Et c'est dans cet accueil que je me donne, alors que l'autre, l'époux, va se donner et dans le don de lui-même va accueillir. C'est juste physiologiquement différents, psychologiquement, spirituellement, intimement, totalement différents. Et c'est parce qu'il y en a un qui accueille pour se donner et l'autre qui donne pour accueillir qu'il y a communion des personnes. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et c'est là cette unité, cette expérience de l'unité originelle d'Adam et Ève. L'unité, c'est l'acceptation par l'homme de réaliser dans sa chair, l'homme, homme et femme, dans sa chair, l'image de la communion éternelle des personnes divines. Accepter, cette expérience originelle, c'est d'accepter que nous réalisons dans la chair, dans le don de nos corps, nous réalisons l'image de la communion éternelle des personnes divines. Quand un époux et une épouse se donnent, ils réalisent dans leur chair, dans leur union intime, la communion éternelle des personnes divines. Ils sont image et ressemblance de Dieu. Homme est image de Dieu par la communion des corps, expérience de l'unité de la communion des corps, et c'est cela qui est image de Dieu. L'homme et femme, même appel, même dignité. La femme révèle à l'homme sa masculinité et inversement. C'est l'os de mes os, c'est ma chair, la chair de ma chair. C'est le premier chant d'amour de toute l'humanité et qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques aussi. Découverte par l'homme de la raison profonde de ce qu'il est. Un corps fait pour le don. Intériorité de mon intériorité. Et même la pire des personnes que vous aviez en tête tout à l'heure, avait cet appel en elle. On a tous cet appel en nous, cet appel au don total, jusqu'à dans notre corps. La femme se reçoit de Dieu, l'homme reçoit la femme de Dieu. La femme se reçoit de Dieu, l'homme reçoit la femme de Dieu. Je le traduis, je suis un cadeau fait à Emmanuel par Dieu. Quand Emmanuel me voit, il dit, voilà le cadeau que Dieu m'a fait, me donne, et donc je vais prendre soin. Voilà. Si tous les époux regardaient leurs épouses comme étant un cadeau que Dieu leur a fait, et moi je me dis, je suis le cadeau fait par Dieu à mon époux. Je ne suis pas une chose. Je ne suis pas une chose. Et quand je dis un cadeau, c'est-à-dire en accueillant la merveille que je suis un cadeau pour Emmanuel. La femme est un don pour l'homme. Dans ce don, l'homme découvre le fond du fond de son identité. C'est-à-dire que c'est en me regardant comme étant un cadeau de Dieu qu'Emmanuel comprend le sens de sa vie, comprend le sens de son identité. La femme révèle l'homme à lui-même et l'homme révèle la femme à elle-même. Os de mes os, identité humaine de l'un et de l'autre. En te voyant, je comprends ce que je suis. Effacer ces différences, c'est ne plus savoir qui je suis, ne plus comprendre pourquoi tu es là, ne plus comprendre le sens de ma vie. Retrouver le sens de ma sexualité masculine et féminine, ça me permet de comprendre ce que je suis par rapport à toi. Voilà un corps qui exprime la personne. Je suis mon corps. Un corps qui dit la personne, car tout dans ce corps exprime le don. Malheureusement, nous ne savons plus lire notre corps. Il faut nous réapprendre à lire le langage de notre corps. On pourrait comprendre qu'il crie le don. Et puis, c'est ce corps qui est nous. Nous sommes notre corps et le corps révèle la personne, révèle l'homme. Et on doit en prendre soin. Troisième expérience originelle, c'est la nudité. Ils étaient nus. Que signifie qu'ils étaient nus ? Est-ce que ça veut dire qu'il faisait chaud ? Ou est-ce que c'est le fait qu'ils n'avaient pas besoin de vêtements pour cacher leur corps jusqu'à cacher leur sexualité ? En fait, cette signification de la nudité, quand Jean-Paul II en parle, quand il dit pourquoi on précise ça, Le regard qu'ils avaient l'un pour l'autre était un regard d'accueil de l'autre, comme une personne faite pour le don. Il n'y avait aucun désir d'appropriation de l'autre, aucun désir de juger l'autre, aucun désir de condamner l'autre, aucun désir de dominer l'autre par son regard, par son attitude. Il y avait juste une transparence. En gros, ils se regardaient l'un l'autre comme Dieu les regarde. Donc ils étaient dans l'émerveillement l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça devait être agréable. Les signes sexuels masculins et féminins n'étaient pas une gêne. Leur regard exprimait ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Et ça leur apportait une jubilation. Et ce don qu'il y avait au fond d'eux, qu'ils pouvaient voir dans le regard, c'est ce qu'on appelle la vocation sponsale de l'homme. C'est un mot inventé par Jean-Paul II. La vocation sponsale. Vous voyez bien que dans le mot sponsale, vous comprenez quoi ?
Spontané.
Sponsale. Voilà, d'épousailles. Parce que Dieu veut nous dire, par cette union de l'homme et de la femme, c'est ça que je désire avec toi dans l'éternité. Quand je vous dis Dieu veut nous épouser, Dieu veut nous épouser, c'est-à-dire qu'il voudrait être dans un don total, il voudrait qu'on puisse rentrer dans cette communion d'amour qu'il y a dans la Trinité, qu'on puisse danser dans cette communion d'amour de la Trinité, qu'on puisse, avec le Christ, ça c'est ce qui va se passer en vie éternelle, relisez votre credo, d'accord. Et donc, il y a la création, il y a le refus, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, la résurrection, mais dès le départ, Dieu savait ce qu'il voulait à la fin. D'accord ? Quand vous faites Google Maps, vous avez une petite bouboule bleue qui vous dit où vous êtes, et puis vous mettez, par exemple, église Saint-Louis, place Napoléon, La Roche-Oyon. Et bout, vous avez une bouboule rouge qui vous dit où c'est. Et on vous met itinéraire. Vous cliquez dessus, et il y a un petit trait qui fait. Mais en fait, dès le départ, Dieu, il savait où était la bouboule rouge quand il a créé l'homme et la femme. Il avait déjà cette intention avec nous, dans la création. Et c'est nous qui avons dit, on verra ça la prochaine fois, c'est bien gentil, mais je sais mieux ce qui est bien pour moi. Le corps masculin est fait pour le corps féminin. Le corps masculin est fait pour le corps féminin. Le corps féminin est fait pour le corps masculin. Il est fait pour un don mutuel, dans une communion qui exprime qu'une seule réalité, la communion éternelle des personnes divines. Ce corps masculin et féminin n'est fait que pour une. Il est fait pour un don mutuel dans une communion qui exprime qu'une seule réalité, la communion éternelle des personnes divines. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de gêne. C'est pour ça, exactement. Et alors là, ça va être un peu plus ardu, mais je vais aller plus vite du coup. L'homme et la femme, l'union de l'homme et de la femme, Jean-Paul II dit, c'est un sacrement primordial parce que. Dans le sens où il dévoile le mystère de Dieu. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère caché de Dieu de toute éternité. Définition en catéchisme. Signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère caché de Dieu. Et donc, le signe, c'est quoi ? C'est l'union de l'homme et de la femme. Qui exprime qu'une seule réalité, la communion éternelle divine des personnes. Ça va ou pas ? Vous relirez le credo. Relisez même les préfaces. Moi, j'ai découvert que les préfaces, en fait, nous initiaient doucement, à dose homéopathique, à ce projet de Dieu. Toute la liturgie de la messe, en fait. Toute la liturgie de la messe. Nous prépare à cette union à Dieu. Toutes ces merveilles de la création ne sont que l'écrin d'un joyau du trésor des trésors. Le mystère central et total de l'œuvre de la création, le couple humain. Emmanuel et moi, nous sommes le mystère central et total de l'œuvre de la création. chef-d'œuvre de sa création, le couple humain homme-femme, fait l'un pour l'autre, pour le don mutuel d'eux-mêmes, d'où surgit une communion. C'est ainsi que c'est un sacrement primordial, car il est central. Le couple humain est l'image dans la chair de la communion des personnes divines. Dieu a voulu se dire de cette manière-là, dire son être profond dans la communion masculin-féminin, exprimée de manière totale et achevée dans le mystère des dons des corps, dans la chair unie de l'homme et de la femme. Notre corps n'est donc pas un boulet, mais il est la manifestation de ce que Dieu veut de toute éternité. Nous avons un corps pour nous permettre d'être le don de nous-mêmes dans la communion des personnes. Ce que voulait Dieu aux origines, l'homme l'a détourné. Mais Dieu ne change pas d'idée. Dieu continue. Qu'est-ce qu'il est difficile d'accepter de vivre aujourd'hui, car nous sommes héritiers du péché. Si nous sommes héritiers du péché, nous sommes aussi héritiers du projet de Dieu dès l'origine. On n'est pas que héritiers du péché. D'accord ? On est aussi héritiers du projet de Dieu de l'origine. Et quand je parle de ce désir d'aimer qui est là, c'est que ça, personne n'a pu l'atteindre. Dieu a permis que l'homme, dans sa liberté, puisse se détourner du projet de Dieu, mais ça, il ne l'a pas laissé aux malins. Ce désir qu'on a au fond de nous d'aimer en vérité, Jean-Paul II appelle ça l'écho des origines, et le pape François appelle ça le désir d'aimer en vérité. Ce désir-là, il ne faut pas grand-chose pour le sortir. Alors, on est tous encrassés. Moi, vous, on est tous encrassés. Mais des personnes qui sont loin de Dieu peuvent l'entendre, peuvent le saisir, parce que c'est inscrit en eux. Et je raconte souvent cette histoire, parce que moi, elle m'a bouleversée, d'une jeune fille qui me dit un jour, « Mais moi, tu sais, moi, je suis avec les garçons, avec les filles. » En fait, puis elle avait les yeux très, très noirs, du rouge à lèvres noir, tout était noir chez elle, ce qu'on appelle gothique, très gothique. Et elle me dit, « Mais moi, tu sais, je suis avec les garçons, avec les filles, c'est un peu, ça dépend des opportunités, hein, vraiment, moi, j'ai pas de problème avec ça. » Et vraiment, je remercie Jean-Paul II de m'avoir changé mon cœur par rapport à ce genre d'attitude devant moi, parce que c'est vrai que j'aurais pu tenter de dire mais tu es folle, enfin, c'est pas comme ça que tu vas te construire. Et en fait, j'ai une attitude totalement différente. Toute la seule réaction que je lui ai dit, parce que ce désir d'aimer, en vérité, en fait, il est pour tous. Je lui ai dit, mais oh, qu'est-ce que tu as besoin d'aimer? C'est dingue, tu as une puissance d'aimer qui est absolument incroyable quand même. Et là, je suis impressionnée. Et c'est fou, quoi. T'as un volume et une densité d'amour qui est très puissant. Et elle me dit, mais oui, j'aime ça, etc. Et là, je l'ai un peu inversée en lui disant, et tu te sens aimée, tu te sens accueillie quand tu te donnes dans cet amour, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on manque de respect, parce que c'est magnifique, tout dans ton corps crie l'amour et la beauté de cet amour. Regarde tes rondeurs, regarde tes seins, ton ventre, tes cuisses, tes hanches, tout hurle à l'amour et au don, et d'appel au don, c'est inscrit en toi, c'est magnifique. Et alors elle était scotchée que je la trouve belle et que je m'émerveille devant elle, et à ce moment-là elle me regarde et elle me dit, mais on m'a jamais dit ça sur mon corps. Et je lui dis, mais est-ce que tu te sens aimée quand tu te donnes, parce que je sens bien que tu te donnes, que tu as une grande force d'amour. Et elle m'a dit, je sais pas. Et là, je lui ai dit, mais peut-être... Bon, ça, c'était en 2 heures. Hein. Donc, je vous le fais court. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as pas quelquefois le sentiment d'être prise un peu, d'être un peu un objet de l'autre? Oui. Et elle s'est mise à pleurer, et à pleurer. Et... j'ai pas parlé une fois, tu sais, Jésus a dit à l'origine, c'était pas comme ça. J'ai pas dit ça. J'ai parlé de la personne, cette personne qui est faite pour le don. Qu'est-ce que tu as besoin de te donner? C'est dingue. Ouais. Ben oui, sauf qu'elle était prise, elle n'était pas donnée, elle n'était pas accueillie. Vous voyez? Et donc elle ne pouvait pas s'accueillir. Et donc il y avait une fuite et c'était un cercle infernal. Voilà. Julie. On a refusé ça, on a refusé ce beau projet. Et on verra ça la prochaine fois, les conséquences que ça peut avoir. Mais malgré tout, vous voyez, les trois expériences originelles dont je vous parlais tout à l'heure, mon expérience auprès de beaucoup de personnes que nous pouvons voir, et je pense particulièrement des personnes qui ne se marient pas, qui ont un célibat qui n'est pas choisi. Et puis on en fabrique beaucoup en ce moment. La société fabrique de plus en plus de personnes qui ne choisissent pas le célibat et qui se retrouvent célibataires, non choisies. Eh bien moi, j'ai la conviction que si j'avais, si j'avais une troisième vie, ou déjà une deuxième, si j'avais déjà une deuxième vie, parce que j'ai la vie éternelle après, mais sur Terre, si j'avais une deuxième vie sur Terre, je prendrais du temps pour accompagner nos amis célibataires, pour leur donner les moyens de vivre, revivre ce temps, ces trois expériences originelles. Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Quelque chose qui n'est pas en place. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le refus du projet de Dieu? Et là, on arrive à la liturgie d'aujourd'hui. Vous avez tous été à la messe? Il y en a qui n'ont pas été à la messe encore? D'accord. Donc, ce matin, il y avait ce passage du malin, du diable, qui vient tenter le Christ. Vous vous souvenez? Et alors, c'est intéressant parce que il tente le Christ répond, il est écrit, blablabla, et il répond, il est écrit. Et là, le malin arrive en disant, et il prend les armes du Christ en lui disant, mais tu sais, il est écrit. Et donc, il se met au niveau si on peut se mettre au niveau du Christ, mais il reprend les arguments du Christ pour essayer de le rouler dans la farine. D'accord? Et c'est ce qu'il fait tous les jours avec moi, vous voyez. Et c'est pas grave que tu prennes un peu de confiture aujourd'hui, même si c'est carême, ce pot va s'abîmer, et puis bon, tu peux toujours faire un petit effort sur autre chose, c'est pas grave. Vous voyez le truc, enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en recreusant Genèse 3, c'est un peu même, le même process. En fait, il a un process qui est connu. C'est qu'il va commencer par vous détourner de la vérité. Donc, il met en doute ce qu'il met en... tu n'as pas le droit de prendre cet arbre-là. Vous vous rappelez ça? La pauvre Ève, elle essaie de s'en sortir, parce que Ève, je vous rappelle que la pauvre Ève, elle est celle qui se laisse tenter, mais au passage, tu prendras chez toi ton épouse, tu t'attacheras à elle. Le pauvre Adam, il avait une mission à faire avec Ève, d'en prendre soin. Il en était le gardien. Où était Adam quand le malin était en train de l'embobiner? Elle était bien seule, la pauvre Ève. Donc, voilà. Il y a une réflexion à se faire, quand même. Mais c'est vrai que c'était la mission de l'homme, c'était de protéger, de prendre soin. Alors, j'ai essayé de vous reprendre les phrases. Il dit « Transforme la pierre en pain ». Vous vous souvenez? Avec Ève. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Donc il attaque sur la nourriture, déjà, comme pour la pierre et le pain. Ensuite, elle lui dit « Mais pas du tout ». Ah oui, c'est ça, parce qu'elle dit « Mais non, pas du tout, on peut prendre de tous les arbres ». C'est ça. « Vous ne pouvez pas prendre, c'est ça ». Et en plus, il ment. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres ». Elle dit « Mais pas du tout, on peut manger de tout, sauf celui-là ». D'accord? Donc, il essaie de la rouler. Et c'est pareil avec le Christ. Et là, elle dit, mais pas du tout, etc. Et le serpent lui dit, pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? À peu près la même chose. Si tu veux être puissant, vous vous souvenez? Voilà, en fait, je l'avais écrit. Le pain, le fruit défendu. Vous voyez ce rapport? Dieu donne tout, sauf un arbre. Et Dieu donne en abondance pour contenter l'homme. Et lui, le diable, va nous détourner. Deuxième tentation, la puissance et la gloire. Et de l'autre côté, ça revient au même. Quand on dit connaître le bien et le mal, avoir la connaissance du bien et du mal, c'est pour être comme Dieu. D'accord? C'est d'avoir la puissance. Et en fait, c'est d'être comme des dieux. Même tentation. Troisième tentation. Il est écrit. Donc là, le diable reprend les arguments du Christ. Mise en doute de l'amour inconditionnel de Dieu. Et dans les deux cas, il y a cette mise en doute de l'amour inconditionnel de Dieu, de la sollicitude de Dieu pour l'homme. Ça m'a frappée. Et autre chose qui m'a frappée, c'est que, en fait, on voit là que Adam avait tout et il a été vaincu. Et le Christ, qui est le nouvel Adam, avait rien, mais il fut vainqueur. Et que c'est par le Christ et avec le Christ qu'on pourra, en se laissant attirer vers le Christ, uniquement que nous pourrons être forts, qu'on pourra résister. Il y a cette phrase magnifique qui était dans saint Paul. Je vais déchirer les pages, c'est pas très malin. En fait, c'était pas malin de faire ça. Voilà, chaque invitation en fait est un donnant-donnant, alors que Dieu donne constamment sans attendre notre retour. Dieu donne sans condition. Et je ne sais pas si vous avez. Dans le texte d'aujourd'hui, vous avez cette phrase. Alors, je n'arrive pas à retrouver. C'est l'homme. Il y avait ça. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette parole, le Christ dit à l'origine, il n'en était pas ainsi. Donc, il se base sur la parole de Dieu. Le Christ sans arrêt dit, il est dit, il est écrit, se base sur la parole de Dieu. Ève se base sur la parole de Dieu, il a dit, l'autre qui dit mais c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Et en fait, cette parole de Dieu vient commencer à mettre le doute. Et l'homme, en fait, c'est la parole de Dieu qui va pouvoir nous nourrir et nous remettre, en fait, dans la compréhension et sur le bon chemin et surtout dans la compréhension du projet de Dieu. Ça m'a frappée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que vous avez eu écho du texte que le pape, et je conclurai par ça, le pape a récemment reçu des enfants au Vatican, et les enfants lui posent plein de questions, les unes derrière les autres. Et à la fin, il répond. Merci pour vos questions. Ce sont des questions faciles de la vie. Toutes vos questions ont été prises dans la vie. C'est-à-dire dans la vôtre. Hein. Enfin, la mienne, les questions, il fallait voir, c'était vraiment banal. Elles viennent de l'expérience de la vie. Ce sont des choses que vous savez et dont vous faites tous les jours l'expérience. La première, par exemple, comment nous défendre des voix, des inspirations mauvaises qu'on a dans le cœur, celles qui viennent de l'esprit du monde. Mais quand je parle de l'esprit du monde, dit le pape, il parle aux enfants. Hein. Qui est le patron de l'esprit païen, éloigné de Dieu? Celui qui s'appelle l'esprit du monde? Qu'en est-il du chef? Vous le savez, ça? Vous savez qu'il a un chef? J'entends rien. Alors, les enfants ne comprennent pas ce que dit le pape. Qui est le chef de la méchanceté? Demande le pape aux enfants. Le diable. C'était tout l'évangile du jour et relisez Genèse 3. Le pape François. Le diable? Mais le diable, c'est l'imagination, il n'existe pas. C'est ça, il n'existe pas, le diable. Les enfants disent, ben non, il n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas? Alors les pauvres enfants, ils ont dit, comment ça, il n'existe pas? Le diable n'existe pas? Ben, non. Quoi? Qu'est-ce qu'on vous a appris à ce moment-là? Oui. Mais vous êtes sûr? Alors il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non. Alors le pape s'énerve. C'est pas une histoire de bonne femme. Alors, il existe ou pas? Non, oui, les enfants ne savent plus trop, hein. Ils sont un peu perdus. Alors, vous en doutez? Et la catéchèse, alors? Ça ne va pas du tout, hein. Je pense que les dames cathées en prennent un coup au passage. Ne faites pas honte à vos catéchistes. Le diable, il existe. Ou il n'existe pas, oui ou non? Alors, ils ne sont pas encore clairs, oui, ils insistent. Qui a dit non? Zou. Le diable n'existe pas? Ils répondent, oui. Voilà, il existe, oui, c'est vrai, et c'est notre plus grand ennemi. C'est celui qui cherche à vous faire glisser dans la vie. C'est celui qui met dans notre cœur le mauvais désir, la mauvaise pensée, et qui nous pousse à faire du mal. C'est tout ce qu'il a de mauvais dans la vie pour finir dans les guerres. Le diable, je veux une seule réponse. Le diable, est-ce qu'il aime la paix ? Non ! Voilà, ouf, ça y est, c'est bon, il commence à avoir les bonnes réponses. Non, parce qu'il vit en nous faisant la guerre dans nos cœurs. Et dis-moi, alors il regarde un enfant, est-ce que le diable est méchant ? Alors le diable dit, le pape François dit, il est méchant le diable, comme ça. Le diable, peut-il être un ami ? Non, attendez, si quelqu'un appelle, ça ne va pas le faire. C'est Emmanuel. Ah non, c'est Emmanuel, arrêtez le pauvre. Il est méchant le diable, comme ça. Le diable peut-il être un ami ? Non. Parce que fera-t-il ? Viens, ah oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Viens, tu es mon ami, viens vers moi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec le diable ? Du mal. Il nous conduira sur la voie du mal à faire, nous aussi, des méchancetés. Je reprends la première question. Comment pouvons-nous nous comporter pour nous défendre des coups de bâton que nous recevons du diable ? C'est dur, hein ? Enfin, je veux dire, c'est la première fois que je le vois aussi fort avec des enfants. Avant tout, par la prière. Et après, il invite les enfants à prier, à se rapprocher de Jésus et de Marie, et de pratiquer le jeûne. Voilà. Voilà tout le chemin qui nous est appelé à faire pour essayer de retrouver le chemin et le projet de Dieu. Genèse 1 et 2. Vous lisez Genèse 3, vous allez voir où vous en êtes aujourd'hui, et on creusera ça, les conséquences. Parce que c'est bien gentil de comprendre que le diable nous a détournés, mais quelles sont les conséquences au quotidien, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Amen.
Merci. Voilà, merci. Donc vous avez compris que c'était... Oui, très bien.